trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Thierry Leclerc est à nos côtés, président et cofondateur d'AlphaJet Fair Investors. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Grégoire.
Merci d'être là. Merci à Gustavo Renstein d'être avec nous également. Bonsoir Gustavo.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs chez Dorval Asset Management. Et Nicolas Gotzmann qui nous accompagne également. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Vous êtes responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Parlons peu, parlons bien Nicolas. On est à une semaine de la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. Je crois que les banquiers centraux ont d'ailleurs à peu près toutes les données clés possibles pour former leur décision jeudi prochain, le 11 avril. Quelle tournure peut prendre cette réunion d'avril, Nicolas? Et quel terrain de compromis peut-on attendre en matière de communication notamment, puisque le marché s'attend à un nouveau statu quo de la part de la Banque Centrale Européenne pour ce meeting, mais j'ai quand même du mal à imaginer que ce statu quo va rassembler une unanimité totale au sein du Conseil des gouverneurs.
Je pense effectivement qu'il y a des discussions en interne avec quelques gouverneurs qui souhaiteraient effectivement baisser les taux immédiatement, donc dès la prochaine réunion. Tout en sachant que la majorité ne va pas dans ce sens-là. Donc soit cette équipe minoritaire, on va dire qui est plus Dove, arrive à obtenir une majorité et l'emporte tout de suite, mais c'est, encore une fois, c'est très peu probable. Et dans ce cas-là, il est donc plus probable d'obtenir quelque chose qui soit à peu près satisfaisant pour tout le monde, c'est-à-dire d'orchestrer en tout cas une communication qui puisse paraître un peu plus Dove que ce qu'on a eu jusqu'à présent, pour laisser entendre au marché que ça y est, ils sont prêts, qu'ils vont y aller effectivement en juin, qui permettra d'avoir une réaction de marché, qui permettra également d'assouplir les conditions financières européennes. Mais bon, on est plutôt dans ce cadre-là, éventuellement effectivement d'avoir une deuxième baisse de taux dès le mois de juillet. Ça paraît quand même aussi assez peu probable pour le moment. Mais il est quand même intéressant de voir que les prises de position de ces dernières semaines montrent que l'équipe qui souhaite la baisse de taux est en train de s'agrandir de façon intéressante.
De qui parle-t-on concrètement, Nicolas?
Je pense que le poids lourd vraiment de ce changement de cap, c'est François Villeroy et Gallo. Donc ça, c'était vraiment le plus intéressant. Et depuis le mois de décembre dernier, on voit qu'il avait commencé à attaquer, on va dire, assez clairement les arguments qui étaient développés par l'équipe des hawks, on va dire.
Des durs, des orthodoxes.
Des orthodoxes. et de façon assez mécanique et, je pense, assez efficace. On a eu un discours, je pense, très fort de la part de Piero Cipollone, donc le membre du board italien qui vient d'arriver, qui faisait son premier discours de politique monétaire avec des, je dirais pas des mots durs, mais avec une critique assez claire de ce qui a pu se passer par le passé au sein de la zone euro.
On doit être prêt à bouger rapidement.
C'est ça, et de montrer qu'il est vraiment utile d'agir rapidement pour ne pas endommager trop lourdement les capacités de production de la zone euro à long terme et les capacités de croissance du continent.
Qu'est-ce qui retient encore ou qu'est-ce qui fait que ce meeting du mois d'avril n'arrive pas à former un consensus pour une baisse de taux maintenant, en étant obligé de signaler qu'elle viendra en juin pour quand même générer des effets de marché qui permettront justement de baisser les taux sans les baisser, quoi.
La communication qui a été utilisée depuis le mois de décembre, c'est vraiment la question des salaires, tout en indiquant que les données qui sont relatives aux salaires pour le Q1 2024 ne seront disponibles que finalement le 7 juin, c'est-à-dire le lendemain de la prochaine réunion. Mais enfin, ils auront sans doute des données intermédiaires.
Enfin, mais il y aura des données quand même préliminaires sur les salaires.
Alors, la publication totale des chiffres du PIB européen qui prennent la compensation par salarié, ça sera le 7 juin, le lendemain de la réunion. Donc voilà, mais ils auront des données intermédiaires, mais ils n'auront pas les données définitives à ce moment-là. Mais c'est ce qui était prétexté à ce moment-là pour pouvoir justifier le fait de ne pas baisser les taux tout de suite. Justement, ce point-là avait été critiqué par François Villeroy de Gallo en disant qu'on n'avait pas besoin de toutes les données non plus pour prendre une décision. Donc, ce qui était aussi intéressant, d'autant plus que les données qu'on a autres montrent, on va dire, d'une part, qu'on a une croissance qui est constamment révisée à la baisse, même si le chômage n'est pas encore touché, et on a un profil d'inflation qui est quand même satisfaisant. Et aujourd'hui, même si on prend une règle de Taylor, ce qui est quand même le truc le plus, pas hawk, mais quand même assez sévère, et vous considérez qu'il y a absolument zéro output gap, c'est-à-dire comme si la zone euro était à son plein potentiel aujourd'hui. Si vous prenez les données d'inflation qui ont été publiées hier, vous êtes déjà largement en dessous du taux de 4%. Donc c'est-à-dire que vous êtes dans une situation aujourd'hui, en fait, il n'y a effectivement pas grand-chose qui puisse justifier la position de la BCE et qui serait vraiment opportun de leur part d'y aller. Peut-être ce qui pêche un peu, c'est le fait de ne pas avoir communiqué suffisamment sur la possibilité d'avoir le mois d'avril ouvert à une baisse de taux, et que ça peut être un problème.
Bon, et c'est vrai que les dernières données d'inflation ont particulièrement surpris à la baisse. On l'a vu avec les premières estimations qui ont été publiées ces derniers jours. On attend à minima une communication beaucoup plus accommodante de la part de la Banque Centrale Européenne. Gustavo, d'accord avec ce point? Est-ce que ça peut d'ailleurs déjà générer des effets de marché avant même que la BCE ne délivre ses premières baisses de taux? Et puis, comment vous regardez le chemin qui semble diverger entre la BCE et la Fed aujourd'hui?
Je crois que sur les banques centrales, et ça c'est vrai pour la Fed et pour la Banque Centrale Européenne, ce qui est important du point de vue des marchés financiers, ça n'est pas vraiment ce qu'elles annoncent en tant que telles ou ce qu'elles vont faire, mais simplement la conditionnalité de leur action. Cette idée qu'on développait il y a déjà plusieurs mois, mais qui maintenant je pense c'est vraiment ça qui a accompagné les marchés, celle du put, du retour du put des banques centrales, et ça c'est toujours vrai. Malgré les hésitations de la Banque Centrale Européenne, on sait que si la situation devient extrêmement douloureuse, vraiment très très difficile, ils baisseront les taux. C'est vrai aussi pour la réserve fédérale américaine, parce que l'inflation est déjà effectivement suffisamment basse, même si elle n'est peut-être pas encore à la cible, même si les salaires sont peut-être encore un peu gênants du point de vue de la Banque Centrale Européenne, mais si vraiment il y avait un choc extrêmement dur sur la croissance, ils pourraient agir immédiatement. Donc cette conditionnalité, elle est là, elle existe. Et je pense que les investisseurs sont persuadés qu'elle est là. Et c'est ça qui fait que, finalement...
Actifs risqués, notamment, se comportent
aussi
bien.
Exactement. Ouais. Quelle que soit, finalement, la communication précise, ça explique aussi l'inversion de la courbe des taux, qui est quand même extrêmement importante, qui fait d'ailleurs que les conditions financières, en tout cas, si on fait une moyenne de tout ça, ne sont pas si serrées que le seul taux court semble l'indiquer. Donc, il y a quand même déjà une action importante. Après, bon, on ne va non plus promettre éternellement. À un moment, il faut effectivement délivrer. Mais il n'y a pas besoin, je pense, effectivement, de précipitations particulières, même du point de vue de la BCE.
Ça pourrait être perçu comme inquiétant si on avait une surprise la semaine prochaine avec une BCE qui baissait ses taux alors qu'elle ne l'avait pas signalé auparavant.
Faudrait, en tout cas, il serait obligé de l'expliquer parce que ça serait effectivement plutôt une surprise. Et donc, il faudrait expliquer pourquoi il le fait maintenant, quelle est l'explication particulière. Je ne me souviens plus, peut-être, est-ce qu'il y a une mise à jour des
Non, c'était mars. Non, c'est passé, c'était la réunion précédente. Voilà, la prochaine sera en juin. Bon,
voilà, raison de plus, effectivement,
oui, c'est un meeting intermédiaire.
Pour ne pas agir. La seule chose qui pourrait faire agir, c'est s'il révisait de manière très, très, très forte la croissance ou l'inflation, où là, effectivement, il pourrait en tirer les conséquences. C'est pour ça que le mois de juin, la plupart des économistes attendent le mois de juin, ça semble assez, assez logique. Donc, à part communiquer pour laisser la porte ouverte, continuer à dire que tout ça, c'est meeting par meeting en fonction des données, etc. etc. Voilà, et puis, le mois de juin, je pense qu'effectivement, tout le monde s'attend à ça. Et comme tout le monde s'y attend, pourquoi surprendre les gens? Autant faire ce que les gens attendent.
Divergence avec la Fed? Est-ce que l'écart se creuse peut-être un peu plus au regard notamment des dernières données économiques, hein, côté américain, côté européen, au regard d'un discours de Jérôme Powell hier, effectivement, alors qui garantit toujours qu'il y aura une recalibration du réglage de la politique monétaire aux États-Unis, mais qui reste quand même très prudent sur le calendrier. Il n'y a pas de garantie absolue que juin soit peut-être le moment de la baisse de taux pour la Fed.
Non, alors la question du put des banques centrale est encore plus fort pour la réserve fédérale américaine, puisque là, l'inflation, on n'y est pas complètement. Effectivement, les derniers chiffres n'étaient pas très bons. Mais, très honnêtement, d'un point de vue macroéconomique, on est suffisamment proche pour que s'il y a un problème, encore une fois, il y a effectivement des baisses de taux qui ne seront pas, qui ne posent aucun problème. Il n'y a pas de problème d'arbitrage complexe à faire entre la croissance et l'inflation. Si vraiment ça va mal, ils baisseront les taux. Et je pense que c'est simplement ça que Jérôme Powell essaie de garder vivant. L'existence de ce put, si ça il y a un problème, on baissera les taux. S'il n'y a pas de problème,
baisse de taux assurantielle. On est là.
C'est là au cas
en assurance.
Si c'est nécessaire, mais on ne va pas le faire si c'est pas nécessaire, si la situation ne l'exige pas. Bon, pour l'instant, effectivement, rien n'exige une panique du point de vue de la réserve fédérale. La croissance est plutôt satisfaisante, même si, encore une fois, il y a bien des éléments de ralentissement, ici ou là. On verra les chiffres d'emploi vendredi, demain. Mais du point de vue de la Fed, c'est plutôt confortable d'attendre et de laisser vivante cette idée du put au cas où.
Divergence Fed-BCE, qu'est-ce que vous en dites à ce stade, Nicolas? Marché voit 3-4 baisses de taux du côté de la BCE cette année. On est plutôt entre 2 et 3 maintenant pour la réserve fédérale américaine.
Effectivement, la Fed a plus le temps parce que sa croissance est quand même beaucoup plus confortable. Quand on regarde les chiffres de la zone euro, j'avais remarqué qu'il y avait un point qui était intéressant, c'était de voir la totalité de la croissance de la zone euro depuis la fin 2019. L'apport de l'Allemagne, si on prend les chiffres trimestriels, c'est 1 milliard d'euros. Et la construction italienne, c'est-à-dire le super bonus italien, c'était 15 milliards. C'est-à-dire que la construction italienne apporte 15 fois plus à la zone euro que l'ensemble de l'économie allemande. Mmh. Ensuite, si je prends, la croissance de la zone euro, si j'enlève tous les éléments exceptionnels, est de 0,8% depuis la fin 2019. Évidemment, c'est pas du tout les chiffres. On est plutôt proche des 10% pour les États-Unis. Ce qui est intéressant, c'est de regarder l'évolution de la croissance nominale américaine, juste pour voir à quel point la politique monétaire est efficace ou non. Parce qu'il y a eu beaucoup, notamment sur les dernières semaines, de critiques sur le fait que finalement la politique monétaire n'aurait plus autant d'effet qu'avant, étant donné que quand on regarde l'évolution de la croissance nominale, en fait, elle reste très forte aujourd'hui, comparativement au niveau taux qui est atteint aujourd'hui. Mais en fait, quand on décompose le PIB américain, on se rend compte, si je prends les secteurs les plus sensibles au taux d'intérêt, c'est-à-dire si je prends l'investissement résidentiel et la consommation de biens durables, qui sont par exemple des voitures qu'on achète à crédit. Si je prends cet élément-là, en fait, en nominal, on est déjà en négatif sur une année. Donc on est en négatif. Si je regarde ensuite l'ensemble du secteur privé, on est à 4,7. Donc en fait, on est exactement revenu au niveau qu'on avait pré-pandémie. Et par contre, si je prends les éléments qui sont les moins sensibles, en fait, qui sont dépendants plutôt de la politique du gouvernement, c'est-à-dire les dépenses publiques, ouais, plus les dépenses privées, mais dans les structures, c'est-à-dire là où on a des subventions. Donc dans
l'IRA,
le cadre, l'IRA, oui, le CHIPS Act, tout ce qui est en gros qui recouvre la politique industrielle américaine, là j'ai un taux de croissance de 13%, donc c'est absolument colossal. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement le ralentissement qui est provoqué par la Fed dans les secteurs qui sont les plus sensibles au taux d'intérêt est largement compensé par ce qui se passe, par la politique même du gouvernement.
Donc il y a une vraie action de la politique monétaire.
Oui, il y a une vraie action.
En fait, sur les secteurs qui sont censés réagir à la politique monétaire.
Mais ça, vous ne le voyez pas forcément dans le chiffre du PIB. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je pense que du point de vue de Jérôme Powell, parce que ces éléments-là, en fait, ne sont pas détaillés en termes de croissance, mais vous voyez l'inquiétude qu'ils peuvent avoir, justement, sur les questions des investissements en structure, sur les dépenses publiques, parce qu'en fait, finalement, ce n'est pas que ça sabote leur travail, c'est que le PIB reste plus fort qu'eux l'ont fait. Et là, aujourd'hui, ils sont dans une situation inconfortable, c'est qu'on est revenu au niveau, sans doute, où ils voudraient être. Et ils auraient besoin d'appuyer plus encore sur le frein et donc de mettre à risque l'économie américaine, juste parce qu'on a deux secteurs qui sont soutenus très largement par
le gouvernement.
Oui, le gouvernement. Et ce secteur-là est encore très incertain parce que c'est une année électorale, donc ça pourrait être bouleversé par la suite. Et ça serait quand même mal avisé de venir freiner encore plus l'économie américaine, enfin le reste de l'économie américaine, dans un moment comme ça. Donc je pense qu'effectivement, ils ont, enfin comme vous l'avez dit, si jamais quoi que ce soit se passe sur le marché de l'emploi, on aura une réaction immédiate de leur part.
Ouais. C'est un put sur l'économie.
Oui, sur l'emploi.
La Fed veut ancrer dans.
Et ça, il le répète, c'est vraiment de dire que le volet emploi maximal de la Fed est pris beaucoup plus au sérieux qu'il ne l'était précédemment.
Mmh. Voilà. Bon, que vous inspirent ces considérations, ce débat de politique monétaire permanent, hein, un sujet inépuisable, évidemment, mais quand on est investisseur action, et Gustavo le soulignait d'une certaine manière, j'ai l'impression que les marchés actions se sont un peu désensibilisés quand même de ces questions. Ça reste une question importante pour le bond market, pour les marchés obligataires, pour les traders obligataires, etc. Mais bon, le marché actions, j'ai l'impression qu'il y ait 5 ou 6 baisses de taux de la Fed comme on l'anticipait en fin d'année, ou qu'il n'y en ait plus que 2 ou 3, finalement... Mmh. Il vit sa vie et sa vie, elle est plutôt à la hausse, quoi.
Oui, parce qu'il y a des éléments qui permettent d'alimenter aussi cette hausse des marchés actions. Après, enfin, on va pas dire que c'est complètement. Les investisseurs actions ignorent complètement, évidemment, ce qui se passe. Mais c'est vrai que c'est plutôt le sens de l'histoire. Voilà. Donc, le sens de l'histoire, c'était qu'on avait un peu plus de 10% d'inflation il y a un an et demi. Aujourd'hui, on flirte légèrement au-dessus des deux, ce qui est plus ou moins la cible. Donc, on sait qu'il va y avoir un assouplissement des politiques monétaires. Effectivement, en général, les banques centrales, et notamment les très grosses, évitent de surprendre. Donc, ça fait atterrir tout ça assez normalement en juin. Là, je pense que voilà, on a eu des échos du gouverneur de la Banque de France qui a aussi bien infléchi son discours. Il a parlé plusieurs fois du printemps et que le printemps c'était jusqu'au mois de juin.
Et donc, des petits pas. Mieux vaut commencer un peu plus tôt pour en faire peut-être le moins possible.
Exactement.
Et arriver à un taux terminal un peu plus élevé.
Tout à fait.
Si c'est ce dont la zone euro a besoin.
Et effectivement, une série de baisses de taux, voire une baisse de 50 points de base, etc., ça sera plutôt là signe qu'il y a ces histoires de soft landing, finalement, ont disparu des écrans radar et qu'on est sur un autre scénario. Donc, voilà, le chemin, il est tracé. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc, la politique monétaire va s'assouplir et que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les PMI commence un petit peu à se redresser gentiment. Là, on a passé la barre des 50 en zone euro. Donc il commence à y avoir une amélioration cyclique. Je voyais que les investisseurs qui sont sondés par les banques, les grandes banques, se réchauffaient aussi sur la macro européenne, ce qui n'était pas arrivé depuis 2 ans. Donc là, il y a un net. Donc quand ils interrogent les investisseurs, il y a plus 28% d'investisseurs qui sont sur
disait une amélioration.
Voilà, donc une amélioration. Donc qui s'est traduit d'ailleurs, enfin la poule et l'œuf. Hein. Qui fait quoi? C'est-à-dire que les valeurs cycliques ont surperformé les valeurs défensives depuis le début de l'année et ça s'est accéléré sur le mois de mars. Ouais. Donc on est à peu près à 9% de hausse sur les valeurs cycliques et donc à peu près la moitié moins pour les valeurs défensives. Est-ce que c'est ça qui a fait que les investisseurs changeaient leur...
Rien de tel que les prix pour faire varier les sentiments. Hein. Ça marche parfois comme ça aussi. Bah, oui.
Après, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est la somme de tout?
Donc
moi, ça me semble...
Et ce biais cyclique du marché, là, en Europe, notamment, sur la partie actions, il vous convient? Il est légitime? Et comment on réfléchit au régime de marché post-première baisse de taux? Est-ce que ça change quelque chose? Une fois que les baisses de taux sont délivrées, est-ce que le marché fonctionne différemment ou pas?
Ce qui fonctionne différemment, non, mais c'est
est-ce pas... qu'on vend la nouvelle? Est-ce qu'il y a des rotations qui se mettent en place? Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce qu'on se prépare à ça?
Donc, on reprend le fil. On a dit la première baisse des taux qui devrait, on parle encore au conditionnel, on en saura plus évidemment jeudi prochain, mais qui devrait intervenir en juin. On est 3 mois avant, enfin, ou 2 mois et demi. Le marché commence à la pricer, enfin à le prendre en compte, et donc il va un peu plus vers les valeurs cycliques. Donc tout ça, c'est vraiment un scénario, le scénario qui n'était plus du tout habituel, c'est ce qu'on a eu depuis 2 ans avec des taux qui sont passés de 0 à 4% en quelques mois et à une cadence. Donc ça, pour le coup, et beaucoup d'investisseurs n'étaient plus du tout habitués à cet environnement-là. Mais donc, dans l'autre sens, avec un mouvement graduel, je pense que tout le monde sait faire, il n'y a pas de problème. Et donc, ça s'explique aussi donc ce mouvement de retour vers les cycliques qu'on a commencé à voir en mars. Et est-ce que c'est bon pour les marchés? Moi, je pense que oui, parce que bon, jusqu'ici, on parlait, et à juste titre, beaucoup des fameux Magnificent Seven ou des 7 magnifiques en français. Pardon. Et là, on voit, on l'a bien vu au mois de mars, juste les indices de base, donc là je reste aux États-Unis. Le S&P, donc il a aussi une version équipondérée, donc ouais, les 500 sociétés équipondérées, a progressé de 4%, le S&P 500 traditionnel plus 3 et le Nasdaq plus 1. Donc c'est un marché qui trouve un relais de croissance.
Ça se diffuse.
Qui se diffuse.
C'est élargi.
Et en fait, alors pour aller encore plus loin, c'est est-ce que ça va impliquer un effondrement? Enfin, que les investisseurs vont sortir des 7 magnifiques, je ne pense pas. Pourquoi? Tout simplement parce que les résultats vont rester encore très très forts, hein, juste pour avoir un chiffre en tête. On attend à peu près 4% de hausse des résultats au premier trimestre, donc sur les sociétés du S&P 500. Si on enlève les 7 magnifiques, on est à moins 2.
D'accord.
Donc, c'est plus 38% hein, la croissance des 7 magnifiques. Ouais. Donc, ça continue quand même de tirer très fort, enfin, d'y avoir un vent très important qui souffle dans leur voile, qui porte le marché. Et donc, comme la situation macro, ce qu'on vient de dire précédemment, cyclique, s'améliore, ça se diffuse sur des secteurs plus traditionnels, et c'est très sain, très bien. Et ça peut donc donner un relais de croissance au marché pour avoir aussi une bonne année, puisqu'on a tendance à oublier que l'année 2023 avait quand même été très bonne sur les actions. Et donc là, un relais de croissance sans un effondrement. Ouais. En tout cas, c'est mon scénario de ce qui a fait le tirer pour coup le marché en 2023.
Gustavo, est-ce que ce que vous voyez sur le marché, notamment du point de vue des actifs risqués, est-ce que ça reflète l'idée d'une amélioration cyclique, conjoncturelle, un peu globale, un peu mondiale également, de la Chine à l'Europe et aux États-Unis? Et qu'est-ce que les baisses de taux peuvent changer ou non dans cette logique de marché? Est-ce que des baisses de taux délivrées, est-ce que ça entretient encore ce souffle porteur pour les actifs cycliques? Ou est-ce que beaucoup est anticipé et il y a une logique souvent dans les marchés qui est de vendre la nouvelle à un certain stade.
Oui, les deux sont vrais simultanément. C'est-à-dire, il est tout à fait possible que... Parce que fondamentalement, il y a quelque chose de très positif. C'est-à-dire qu'on a à la fois une attente assez large d'une baisse de taux prudente, probablement, mais qui arrivera au mois de juin, du côté de la Banque Centrale Européenne. La Fed, encore une fois, c'est une autre histoire, mais pour la BCE, ça semble assez clair. Avec des PMI qui rebondissent, avec une économie qui va un peu mieux, on a les deux à la fois. Ouais. Tous ces décalages, il se trouve qu'on se retrouve dans cette configuration où on a à la fois l'économie qui s'améliore, et puis les taux qui
partant de très baisser. Bas en Europe, qui a duré au moins 18-24 mois.
Ouais. C'est la désinflation qui avait été signalée, c'est ça, on passe de 10% d'inflation à 2. Ce mouvement, c'est quand même énorme. Donc forcément, on est dans ce moment assez agréable, c'est vraiment l'inverse de la stagflation. Tout le monde parlait de ce scénario de stagflation, c'est pile l'inverse. On a la réaccélération en même temps, la baisse des taux. C'est tellement bullish qu'effectivement, je me mets à douter de moi-même. Ouais. Mais bon, en tout cas, c'est ça qui pousse beaucoup, beaucoup le marché, qui fait cette diffusion, et je suis d'accord, cette diffusion qui enfin a lieu. Ça fait un certain temps qu'on l'attendait. La question de l'équipondération, c'est ce qui nous tient à cœur chez Dorval, parce que voilà, on suit dans nos fonds internationaux le MSCI Monde équipondéré. Ouais. On joue vraiment cette idée de la diffusion, et c'est ce qu'on est en train de voir. Et c'est intéressant de noter que même quand on regarde les grands indices, les indices l'Eurostock 50 fait la course en tête dans les grands indices internationaux, même mieux que le Nasdaq, et c'est pas que ASML, les banques, enfin il y a vraiment.
Mais à commencer par les banques, oui. Même à commencer par les banques.
Qui font un extraordinaire
parcours. Mais bien sûr.
Et qui montrent quand même, il n'y a pas que les 7 magnifiques, il n'y a pas que ces grands champions qui sont toujours des grands champions, et je partage l'idée, il n'y a pas de raison de s'effondrer comme ça tout seul.
Et les baisses de taux à venir, peuvent continuer d'entretenir ce mouvement. Il n'y a pas de raison que
ça dépend
qu'on change de régime ou de schéma de marché,
qu'il
y ait un avant-après.
C'est-à-dire qu'en fait, rien ne les cause. C'est-à-dire que c'est pas qu'il y a un effondrement d'ici la prochaine réunion du mois de juin de l'économie, mais que ça descend indépendamment. Et c'est un peu ce qu'on attend en Europe. C'est une baisse des taux en Europe uniquement à cause de la désinflation.
Non pas pour de bonnes raisons.
Parce que la croissance est faible, mais ne faiblit pas plus à partir de maintenant. Non, au contraire, c'est très favorable plutôt pour les cycliques, pour les actifs risqués. Et ce qui est intéressant, et on l'avait déjà noté, c'est que tout ce mouvement est très favorable aux actions, mais pas forcément au taux long. Effectivement, parce que la courbe est déjà inversée, que les taux longs sont déjà chers, notamment en Europe. Et donc, vraiment, c'est une année où les actions vont faire bien, bien mieux que les taux, même ajustés du risque.
On était reparti en 2024, après la tentative de 2023, comme c'est le retour du bond market. Je ne sais plus ce qu'on disait, mais
bond is back.
Alors, le rendement est de retour, mais en termes de performance à la fin de l'année, effectivement.
On voit beaucoup de clients, et Dorval est plutôt connu, effectivement, pour l'ADN des actions.
Bien sûr.
Donc, on disait, sur le chef, vous êtes gentil, mais là, c'est vraiment le retour des obligations. Ok, très bien. Mais parce que les gens disaient, parce que les taux vont baisser. D'accord, les taux vont baisser, mais c'est les taux courts, c'est les actions qui vont gagner, pas les taux longs.
Comment vous regardez de manière plus globale la question du policy mix aujourd'hui, Nicolas, que ce soit aux États-Unis ou en Europe? On attend toujours des banques centrales qu'elles nous apportent une forward guidance, une guidance, une communication anticipée sur ce qu'elles vont faire en matière de politique monétaire. Est-ce qu'on a une forme de fiscal guidance, et qu'est-ce que vous comprenez de ce que les décideurs politiques, de politique budgétaire, apportent comme perspective aujourd'hui au marché? Le policy mix, c'est important.
Alors pour les États-Unis, je pense que ce qui va être... alors c'est pas forcément pour le policy mix, mais on va avoir l'ouverture au deuxième semestre de cette année 2024 de la nouvelle revue de politique monétaire américaine, donc où tout le travail d'étude va être réalisé, on va dire deuxième semestre de cette année et le premier semestre de l'année 2025, pour un résultat qui sera communiqué donc à la mi de l'année 2025. Je pense que les questions les débats ont déjà commencé. Il y a certaines propositions qui ont déjà été faites. On avait vu notamment Ben Bernanke qui avait déjà parlé du modèle australien, de passer à un modèle où on aurait une inflation comprise entre 2 et 3 %. Ouais. On a des propositions sur une cible nominale qui a d'ailleurs été citée par Jerome Powell il y a quelques mois dans un discours au FMI, qui était intéressante parce qu'il disait que ça permettait aussi d'intégrer dans la cible tout ce qui est supply shock, et comme on a véritablement c'est les problématiques qu'on a connues sur les dernières années, ça serait pas forcément inintéressant d'avoir ce type de cible, mais dans toutes les cibles pour l'instant dont qui sont évoquées sont des cibles qui sont plus agressives que celles qu'on a aujourd'hui.
Plus agressives, c'est-à-dire
qui tendent à supporter encore davantage, enfin encore plus la croissance que ce qu'on avait eu dans les années précédentes. Donc c'est vraiment,
on est prêt à accepter un régime de croissance nominale ou d'inflation.
C'est toujours cette idée
de tolérer plus d'inflation que le 2% strict qui était l'objectif jusqu'à présent.
Je pense que c'est vraiment cette idée d'économie à haute pression. Enfin, il y a toute une histoire de ça, enfin, qui a commencé en 2012-2013 aux États-Unis avec des gens, enfin, des économistes internes à la Fed qui montraient que suite à ce qui s'était passé en 2008, on avait eu quand même, cette faible demande avait eu des effets sur les capacités de production du pays. Alors que généralement, les banques centrales ont plutôt tendance à croire que la politique monétaire est neutre sur le long terme. Là, le résultat, c'était en fait non, c'est pas neutre. En fait, on est en train de détruire les capacités de production du pays. À partir de là, donc on a eu quelques discours, et il y en a eu notamment un de Janet Yellen qui date de 2016 qui montrait justement qu'un régime d'économie à haute pression pouvait éventuellement parvenir à faire l'effet inverse, c'est-à-dire que si on place la demande à un niveau supérieur, on pourrait augmenter les capacités, donc le potentiel économique du pays. C'est plus ou moins ce qui a été fait pendant la période Covid. On voit que le résultat aujourd'hui, en tout cas on va siffler la fin de la partie aujourd'hui, mais quand on voit les résultats qui ont été accomplis, pour l'instant, on peut dire que ça a plutôt pas mal marché. Et les résultats sont quand même très satisfaisants. Et donc, on est plutôt dans une poursuite de cette logique-là, toujours dans l'objectif, encore une fois, d'augmenter les capacités de production du pays, d'avoir une croissance qui tient debout, d'avoir des salaires qui progressent, et aussi une considération géopolitique qui n'est pas tout à fait neutre, c'est de garder la Chine derrière les États-Unis.
Si c'est la philosophie qui prévaut, ça veut dire qu'il n'y a pas devant nous l'idée d'une restriction budgétaire à venir côté américain.
Alors, du côté Biden, non. Du côté de Trump, a priori, quand on voit ce qu'il a fait lors de son premier mandat, je dirais non. Quand on regarde les personnes qui sont autour aujourd'hui, on peut se méfier un petit peu. Mais encore une fois, quand on voit son inclination naturelle à avoir des... On voit comme il avait engueulé Powell à l'époque parce qu'il avait des taux trop élevés et les déficits qu'il a commis lors de sa présidence, on se dirait plutôt qu'il est plutôt dans cette même logique. On peut se méfier quand même parfois des gens qui sont autour de lui, qui ont des visions un peu plus différentes et un peu type Bundesbank, on va dire.
Le marché semble assez bienveillant sur ces questions de déficit et de dette aujourd'hui. Ça fait les gros titres, hein, en Europe, en France, on a passé une semaine, on est en plein dedans. Aux États-Unis, quand même, aussi, on découvre que les États-Unis peuvent tourner avec un déficit à 6% du PIB, peut-être pour encore plusieurs années. C'est assez nouveau dans le paysage global. Et les marchés obligataires semblent accepter pour l'instant cette idée assez facilement. Je trouve, en tout cas, Thierry, je sais pas ce que vous en pensez. Et
j'ai pas un avis, mais de ma fenêtre, je vois quand même qu'il y a énormément de débats sur le déficit français. J'ai jamais vu autant dans les médias grand public, etc. Donc ça inquiète quand même. Donc je pense que. Au niveau de l'opinion, il y a quand même les images qui sont toujours employées, c'est un ménage peut pas vivre structurellement en dépensant plus que. Donc je pense que à quelques mois des élections, des élections européennes, ça imprime quand même.
Il y a un enjeu politique. Mais le marché dit, il y a pas de problème.
Ouais, mais à un moment, si l'opinion, si ça se... Bon, d'une façon ou d'une autre, ça va quand même revenir... Le marché, il n'est pas complètement en lévitation permanente. Et surtout, la base de l'économie, c'est quand même le taux sans risque. Là, pour le coup, en France, en Europe, c'est le Bund. Les Allemands, pour le coup, ils n'ont pas trop de sujets. Mais quand on regarde, nous, de ce côté-là du Rhin... On a quand même des petits sujets d'inquiétude c'est normal. On a une période de dépenses extrêmes à juste titre avec le Covid. Maintenant, on se retrouve vraiment dans le dur. Et là, je pense que il y a quand même une prise de conscience que je ne percevais pas jusqu'ici. Et je pense que ça peut se diffuser donc aux politiques, peut-être donc aux... Les banques centrales sont indépendantes des politiques, mais bon.
Mais ça peut guider l'action publique.
En tout cas, moi, mon avis, c'est on parle toujours de soutenabilité de la dette. Bon, là, à un moment, les banques centrales, elles vont devoir aider les États d'une façon ou d'une autre. Et on sait très bien que les taux qu'on a eus ne sont pas soutenables, ne serait-ce que pour les États. La France, ils vont dépenser 85 milliards d'euros d'intérêts, pas cette année, mais l'année prochaine. Ça devient très nettement le premier poste pour l'État, devant l'éducation, devant la défense. Donc là, il y a un vrai sujet qui se diffuse. Je ne sais pas exactement comment ça va remonter aux banques centrales, si elles vont devoir baisser leurs taux tôt ou tard. Un coût du capital acceptable. Enfin, on ne peut pas se permettre que l'État, donc à nouveau, le taux sans risque, commence à être justement risqué.
Ouais.
Donc c'est ça l'enjeu. Ouais. Comment ça va se finir ? J'en sais trop rien, mais il y a quand même aussi, il y a des risques que ça se finisse mal. Hein. Je parle dans les 10 ou 15 ou 20 prochaines années. Peut-être que quand on regardera cette époque-là, dans 10, 15 ans, on se dira, mais qu'est-ce qu'ils faisaient, quoi ? Enfin, il y avait un enjeu écologique, un enjeu digital. Il y avait des investissements à faire. Ils ne les ont pas faits. Ils entretenaient leur système. Tout ça, il y a beaucoup de questions en jeu. Je ne sais pas comment ça se terminait. Et il y a un risque que ça puisse.
Il y a un endroit où c'est allé très vite et où ça s'est terminé très mal, c'est octobre 2022 au Royaume-Uni et 45 jours entre l'accession de Liz Truss au poste de Premier ministre et son départ.
Sa démission, voilà. Tout à fait.
Voilà. Ça a été un concentré de stress test de ce que ça peut donner. Comment vous expliquez, Gustavo, ce que j'appelle la bienveillance des marchés vis-à-vis de ces questions de déficit, de dette qui s'accumulent ? Alors, il y a le temps des marchés, le temps des dettes et des déficits et des investissements, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait une piqûre très forte de la part des marchés aujourd'hui sur ces sujets-là.
Oui, parce qu'il explique peut-être d'ailleurs pourquoi il y a une pression médiatique et on en parle beaucoup. C'est parce que précisément, sinon on n'en parlerait pas du tout. Parce que comme ça ne se voit pas ailleurs et qu'il n'y a aucune pression particulière, c'est plutôt dans
les. Est-ce que le marché considère qu'on est dans un régime de domination budgétaire, de fiscal dominance ?
Il y a plusieurs choses. Bon, d'abord, l'interprétation de ce qui s'est passé au Royaume-Uni, c'est complexe parce qu'en fait. La raison qui a expliqué l'énorme volatilité, c'est pas simplement l'annonce budgétaire, mais c'est surtout des produits à levier sur le marché obligataire anglais, par des fonds de pension.
Des modèles qui n'étaient pas prêts à ce genre de volatilité sur le marché obligataire.
D'ailleurs, l'intervention de la Banque centrale a réussi à simplement à calmer en relativement peu de temps, en fait. Le temps de dénouer ces opérations. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les annonces du gouvernement de Liz Truss à l'époque n'avaient pas participé, mais c'était déjà un moment ultra stressé pour le marché obligataire, globalement, quand même.
Il y avait une concomitance, effectivement, de phénomènes qui faisaient que ce n'était pas le moment.
Que c'est le retour des bond vigilantes, je crois que c'était un peu exagéré. Ça a participé peut-être, mais je pense que c'est surtout des aspects techniques.
En tout cas, ils en parlent encore. Hein. Le patron d'ECBO, dans sa dernière interview au Financial Times, donc l'organisme indépendant qui fait les trajectoires déficit et budgétaires, il parle de ce moment-là, Truss.
Hein. Il est payé pour ça.
Les gens qui sont payés pour ça ont bien imprimé le sujet. Quoi.
Je m'attends à la prochaine publication de la Banque des règlements internationaux pour dire que tout va bien dans le secteur financier. Non, ils sont payés pour aller voir la prochaine catastrophe. Ils vont la trouver. En cherchant bien, on trouve toujours quelque chose. C'est comme cette idée, vous voyez, que les marchés ne prennent pas tous les risques. Hein. Non, sinon, ça vaudrait zéro. Évidemment, je ne sais pas ce qui. Non, c'est pas ça.
En tout cas, il faut pondérer les risques, oui, je suis d'accord.
Il faut les pondérer un peu. Ça ne marche pas de cette manière-là. Donc, sur les aspects budgétaires, la remarque est intéressante d'ailleurs. Le taux sans risque, c'est en Europe. Mais c'est quoi, en fait, le taux sans risque en Europe ? C'est ça la question depuis le début et qui nous fait hésiter. C'est le Bund, c'est les taux de la Banque Centrale Européenne, du coup, c'est qui devient la Banque Centrale de tout le monde. Du coup, il n'y a pas de risque particulier français par rapport aux autres, ni italien d'ailleurs. Enfin, c'est cette complexité-là qui est vraiment liée à la zone euro, puisque aux États-Unis, on ne se pose pas vraiment la question de cette manière-là. Aux États-Unis, on ne se demande pas du tout est-ce qu'il faut que les taux d'intérêt américains montent pour couvrir ou pour dédommager les investisseurs d'un risque de défaut américain. Ça semblerait absurde, complètement absurde. Ouais. Du coup, c'est vraiment un truc complètement lié à la zone euro. Mais je pense que depuis la crise de l'euro, on a quand même beaucoup, beaucoup progressé en Europe, qui fait que ce risque-là spécifique, il est très, très, très faible. Je n'irai pas jusqu'à dire nul, on ne sait jamais. Mais c'est quand même très, 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 très faible.
Est-ce que les marchés vont demander de la consolidation budgétaire ou pas ?
Pas vraiment, mais je pense que le gouvernement se l'auto-inflige. Et c'est d'ailleurs le principal problème, quelque part, de l'état des finances publiques, c'est qu'elle oblige les gouvernements à faire des politiques pas forcément à bon moment ou trop rapidement. Donc il faut essayer d'avoir une position crédible sans être trop, sans appuyer trop fort sur le frein. Mais c'est pas le marché obligataire en lui-même qui va créer une énorme pression, parce que le marché obligataire, il ne s'inquiète pas du risque de défaut d'un pays européen aujourd'hui. Donc je crois pas que ce soit ça l'enjeu principal.
Vous m'avez répondu sur les États-Unis, Nicolas, mais pas sur l'Europe, sur cette question du policy mix, du fiscal guidance, de la domination fiscale peut-être aujourd'hui, hein, le fait que...
Déjà sur le sujet français.
La BCE est soumise aux décisions budgétaires des États.
Ouais, mais sur le sujet français, il y avait un truc qui était... Enfin, effectivement, les 15 derniers jours étaient absolument fascinants de voir l'attention portée sur le niveau de déficit. On a l'impression que chaque Français connaît exactement le niveau d'endettement sur PIB, le niveau de déficit. Par contre, personne n'a idée du côté... donc on se concentre exclusivement sur le côté passif. Personne n'a idée de ce qui se passe du côté actif. La croissance, est-ce que c'est normal que depuis 2008, on a 40% de croissance en moins? Est-ce que cette question-là, elle est abordée ou pas? Et surtout quand on regarde comment ont été créées les règles européennes, notamment du déficit, donc c'est 3% d'endettement, 60% de dette, et dans les origines, et vous voyez ça même dans les textes de la BCE, l'idée c'était d'avoir 5% de croissance nominale alignée par la BCE. On n'a pas cette 5% de croissance nominale, on a seulement, en moyenne, depuis 10 ans, on a 3%. Donc évidemment, avec 3% de croissance nominale, de faire 3% de déficit, c'est beaucoup plus compliqué. Donc tout le monde est en dehors des clous, et la France particulièrement. Et le cas de la France est aussi assez intéressant, parce que si vous regardez la croissance des dépenses publiques, par exemple, entre la France et l'Allemagne, en disant l'Allemagne, c'est toujours le bon élève, et la France est super nulle de ce côté-là, en fait, on voit que depuis 10 ans, on a 50% de croissance de la dépense publique en Allemagne contre 30% en France. Et donc, il y a un côté un peu fascinant, et en fait, l'Allemagne y arrive parce qu'il y a une croissance plus forte, tout simplement. Et donc, évidemment, c'est plus facile dans ces conditions. Là. Et la France a pas mal baissé ses impôts sur les dernières années, ce qui fait des revenus fiscaux un peu moindres. Mais en fait, la variable principale pour pouvoir corriger une problématique de dette est d'abord la croissance nominale, donc ce que fait une banque centrale. Et donc, cette question, alors je ne dis pas évidemment qu'il ne faut, pas faire n'importe quoi avec les dépenses publiques et tout ça, la question n'est pas là. Mais encore une fois, la principale variable, celle qui peut vous permettre de changer les choses, c'est vraiment du côté actif et du côté de ce que fait une banque centrale. Si vous vous concentrez sur le niveau de dépenses, encore une fois, vous regardez ce qu'a fait l'Allemagne. En fait, l'Allemagne a dépensé beaucoup plus que nous. Et malgré cela, ils ont un niveau d'endettement qui est beaucoup plus faible. Vous voyez que ce n'est pas là qu'il faut agir. C'est autre chose.
Pas des mêmes niveaux. Niveau de départ, ça compte aussi.
Évidemment,
j'imagine, Nicolas. Non,
mais évidemment que ça a un impact.
Plus de 100% de dette sur PIB, on ne peut pas agir de la même manière.
Mais si vous voulez
60.
Régler structurellement les choses, si vous regardez les niveaux comparables d'endettement par rapport au PIB, vous retournez à ce qu'on avait connu en 1945, notamment le UK à ce moment-là, qui était à. Au-delà des 100% très largement, et ils sont revenus à 40% en 90, et non, ils n'ont fait aucun effort budgétaire de ce côté-là. En fait, la seule chose qu'ils ont changé, c'est qu'en fait, ils avaient une croissance nominale qui était plus forte, c'est tout.
Pourquoi leur monte ? Une fois qu'on a dit tout ça, c'est quand même la question d'actualité, et j'avoue que ce n'est pas une question que je pose très souvent. On regarde toujours l'or, mais c'est vrai que l'or... L'or n'était pas un actif particulièrement intéressant en termes d'investissement ces dernières années, en tout cas. Et là, depuis le début de l'année, en tout cas, c'est un actif qui est regardé de plus en plus. Et au sommet historique.
Oui. Et alors, je n'ai pas forcément une explication. Enfin bon, il y a bien sûr les questions géopolitiques et les banques centrales, mais qui ne plaident pas forcément pour avoir un niveau de l'or au plus haut. Simplement, nous, on regarde sur ce qui se passe du côté des marchés actions. Et là, depuis quelques semaines, effectivement, on voit qu'il y a un mouvement très fort sur les minières aurifères et argentifères. Et donc, on a des performances de 20-30% depuis début mars. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'or a pris 15% depuis mi-février. L'argent a pris 21% depuis mi-février également. Et donc, les compagnies... Donc, qui exploite, enfin qui extrait l'or du sol ou l'argent du sol, ont bénéficié de ça dans la foulée et de manière donc très très importante. Et en fait, il y a des configurations de marché qui sont singulières. Et là, il se trouve que on a des étoiles qui se sont alignées. Donc pour ce secteur-là, il faut que les cours progressent. Donc c'est le cas, ce que je viens de dire. Ensuite, deuxièmement, il faut que l'argent, la performance de l'argent soit supérieure à la performance de l'or.
Donc on c'est regarde le cas. Beaucoup le ratio or-argent, hein,
exactement,
c'est ça ?
Exactement. Donc ça, c'est le cas aussi, donc, puisqu'on a plus 21 contre plus 15. Et troisième étoile qui doit être alignée pour avoir une configuration parfaite, c'est que les entreprises juniors, qu'on appelle, donc les plus petites, surperforment les grosses, puisque donc les plus petites ont un effet de levier opérationnel plus important que les grosses. Et c'est le cas également depuis début mars.
Ça veut dire
et
quoi donc, c'est une vraie tendance qui se met
en place depuis quelques semaines. Et quand on a cette configuration technique, C'est favorable. Donc, alors après, on vient de prendre 30%, hein, donc évidemment, j'enfonce des portes ouvertes, mais vaut mieux le faire avant qu'après. Mais en tout cas, est-ce que c'est trop tard ?
Eh bien, c'est ça.
Donc, de ce côté.
Est-ce que le risque, c'est de se dire, est-ce que comme ça a monté de 30%, j'y vais pas maintenant ?
Non, là, quand on a cette configuration technique qui est rare, c'est un signal très fort, très puissant, qui. Je n'ai pas de vision stricto sensu sur l'or ou l'argent. Par contre, sur les valeurs cotées,
les entreprises,
on en a très peu en Europe, mais sur le marché américain, il y a Pan American Silver, donc pour l'argent, donc plus 30% sur un mois. On a Barrick Gold aussi,
Newmont, d'autres, on
a de quoi faire quand on regarde à l'échelle mondiale. Et là, je vous dis, à la minute où on se parle, on a une configuration très favorable. Donc, nous, effectivement, vous l'avez compris, regarde ça de près. Ouais. On est là pour ça, pour détecter les mouvements et les accompagner. Et puis, quand ça se retourne, on prend nos bénéfices, tout simplement.
Bon, là, il y a un sacré momentum, en tout cas.
C'est exactement,
ce que vous décrivez.
C'est mon message.
Merci beaucoup à vous trois. On s'arrêtera sur ces considérations autour des minières aurifières et argentifères avec Thierry Leclerc qui était à nos côtés, président d'AlphaJet Fair Investors, Gustav Orenstein, responsable de la recherche macro et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management et Nicolas Gotsman, responsable de la stratégie macro à la financière de la Cité.
Merci.